Interview.
2 jours. Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview au studio. Aujourd'hui, nous avons comme invité Charlène Payan, animatrice au programme Écodrome qui émane du SMRD.
Oui, tout à fait. Bonjour. Merci beaucoup de votre invitation. J'anime effectivement ce programme qui durera de 2023 à 2025 et voilà, qui est issu finalement d'une des actions du SAGE.
Et puis, nous avons aussi M. Pascal Baudin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Bellegarde-en-Diois et 5e vice-président de la communauté de communes du Diois, en charge des rivières, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, aussi de l'assainissement de l'eau, que ce soit le service public ou le non collectif. Hein,
Pour résumer,
le service mutualisé avec le contrat agence de l'eau.
Oui, service prise de compétence au 1er janvier 2026 de cette compétence eau assainissement au niveau des intercommunalités.
Tous deux, vous êtes ici pour nous parler aussi autour de ce programme Horizon 2050. Et pour cela, vous arrivez avec ce nouveau schéma d'aménagement des gestions des eaux de la vallée de la Drôme.
Tout à fait.
Voilà, donc c'est une réécriture de ce schéma d'aménagement. Ces schémas, ils ont une durée de vie limitée dans le temps, donc régulièrement, il faut les réécrire. Donc on est en phase de réécriture et ce qui nous semblait très important, c'est de se préoccuper un peu du changement climatique. Donc on sait aujourd'hui que ce partage des ordres de grandeur du changement climatique, il est acquis par tout le monde, hein, élévation des températures, élévation de l'évapotranspiration, des débits d'eau en baisse, des étiages plus longs et plus précoces, moins de neige en montagne l'hiver, et une population qui est amenée à croître. Donc des conséquences automatiques sur le quantitatif eau disponible. Et on sait que rien que ce changement climatique va donner, si on ne change rien, une élévation des consommations, que ce soit pour l'eau potable ou que ce soit pour l'irrigation.
Avec cette vallée de la Drôme, où nous sommes un peu enclavés par rapport à ce qui existe autour sur le territoire national. Ça facilite quand même le travail, ne serait-ce que par rapport à tous ces composants qui sont utilisés dans l'agriculture conventionnelle. Nous, on est exempt de ça, c'est déjà un poids en moins à gérer.
On a quand même de l'irrigation au niveau du territoire intercommunal. Ce qui est sûr, c'est que, je dirais que dans un premier temps, nous, ce qui nous importe, c'est au niveau de la communauté de communes, c'est de travailler sur toute cette adaptation au niveau de l'eau potable, par exemple. On s'aperçoit que on gaspillait quand même pas mal d'eau. Donc aujourd'hui, on travaille sur ça. Et c'est notamment dans ce volet-là que Charlène intervient sur la sensibilisation des consommateurs. Comment faire demain? Quel est notre apport à l'eau pour demain?
Et je voudrais rajouter aussi que le syndicat mixte de la rivière Drôme, en effet, il travaille à une échelle de bassin versant qui réunit du coup la communauté des communes du Diois, du Crétois Pays de Saillant et du Val de Drôme. Et donc c'est effectivement une échelle à laquelle travailler, c'est très intéressant de travailler à cette échelle, puisque finalement ça réunit tous les acteurs de la source jusqu'à la confluence de la Drôme. Et donc ça fait vraiment sens autant pour la gestion de l'eau en période de sécheresse qu'en période d'inondation.
Voilà, et donc vous avez des contacts avec 250 acteurs hein, de territoire. Alors, on pourra peut-être détailler un peu ce processus avec leur soutien et peut-être leur concours. Et il y a eu déjà des ateliers visites également au sein de secteurs qui utilisent l'eau ou qui ont nécessité de l'eau. Et donc peut-être établir les axes des prochaines politiques de gestion.
Alors effectivement, on a travaillé au départ sur des scénarios très contrastés qui nous ont déjà donné un certain nombre d'idées sur ce qui nous attendait. Donc on a travaillé sur de la technologie, hein, sur de la résilience, sur de la sobriété, sur du potentiel local au niveau des cultures. Donc issu de ces quatre grands scénarios, on a dégagé des axes d'adaptation. Effectivement avec 250 personnes qu'on a réunies régulièrement. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on a réussi à faire ensemble et que cette pratique du faire ensemble, elle semblait acquise. C'était pas évident au départ d'avoir un peu de cette volonté commune de faire ensemble. Et aujourd'hui, on y est arrivé. Et dans ces quatre axes d'adaptation à ce changement climatique, eh ben, il y a effectivement la sobriété, donc qui vraiment donc l'axe de Charlène intervient dans à ce niveau-là, sachant que l'axe sobriété, le travail de Charlène, c'est une petite brique dans tout ce mur sobriété en règle générale, mais on se dit que voilà, c'est le socle de départ. Après, le deuxième axe, c'est la résilience des milieux et des sols. Donc, c'est toutes les solutions fondées sur la nature, que ce soit l'hydrogéologie régénérative, que ce soit la plantation de haies, que ce soit tout un tas de choses liées à la nature. Il y a le partage de l'eau. Automatiquement, on devra s'y plier, hein. Partager quelque chose d'abondant, c'est jamais un problème. Partager quelque chose où il manque, c'est plus problématique. Et puis il y a la sécurisation de la ressource avec tout ce qui est notion de stockage d'eau. Effectivement, le réflexe, c'est de se dire, à une époque, ça coule beaucoup. Comment est-ce qu'on peut envisager de stocker? Comment est-ce qu'on l'explique au niveau du citoyen, cette nécessité de stockage? Et comment ça se réalise sur le terrain?
Est-ce que pour le public, il va y avoir un changement sensible dans cette gestion et dans son utilisation de l'eau?
Ah oui, au niveau du public, automatiquement, c'est ces notions d'économie. Il va falloir vraiment qu'on travaille là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, on consomme de trop par rapport à ce qu'on a en disponible. Donc, ben, l'échelon public, automatiquement, devra effectivement être concerné par ça. Donc, c'est tout le travail de Charlène à travers un certain nombre d'ateliers.
Et je voudrais rajouter aussi que ce projet Sage-Drôme 2050, porté par le SMRD, donc, il avait cette première phase de partage de l'ordre de grandeur du changement climatique avec ces 250 acteurs. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis. On considère que les acteurs partagent bien ces ordres de grandeur. Et comme il disait Pascal, on a acquis aussi le fait que tous ces acteurs font ensemble, arrivent à bien dialoguer. Et puis, du coup, après cette année de travail, vient donc une autre phase à travers la rédaction du futur SAGE, notamment le fait de se tourner vers le public, tous les acteurs de la vallée de la Drôme, autant les acteurs économiques que les acteurs grand public et ceux qui consomment de l'eau. Maintenant, il y a une volonté de se tourner vers ce public pour partager, le travail issu de Sage-Drôme 2050.
Parler de ce futur projet SAGE et du projet de territoire pour la gestion de l'eau. Donc, est-ce que c'est à l'image de ce qui s'est fait aussi par rapport au projet de territoire alimentation? Est-ce qu'il y a aussi une participation engagée du public aussi dans ce travail?
Moi, je dirais que tout est mêlé. Aujourd'hui, les ateliers, on a tout un tas d'acteurs qui sont venus de l'eau potable, qui sont venus de l'urbanisme, de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et des milieux naturels. On va devoir effectivement s'engager tous les uns les autres pour faire un travail collectif. Et ce qui va nous amener à donc la réécriture de ce schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Et à travers ce document, on va aussi préparer le PTGE, qui est un programme territorial de gestion de l'eau. Contrairement au PGRE, plan de gestion de la ressource en eau, qui était un peu un échec, le PGRE prenait les acteurs séparément. C'est-à-dire que chaque acteur avait un objectif, ça a été un échec.
L'objectif était de réduire de 15% la consommation, de la consommation de l'eau de chacun de ces acteurs.
Voilà. Et pourquoi ça a été un échec?
C'était un échec parce que chacun a travaillé un peu dans son petit côté. Alors, plutôt pas un échec de la part de l'agriculture qui a respecté ses quotas, mais un échec côté de l'eau potable. Alors, échec parce que peut-être que les données de départ de consommation n'étaient pas forcément les bonnes. Il y avait à cette époque-là énormément de communes qui étaient au forfait. Donc, quand on a commencé à poser des compteurs, on s'est aperçu que ce qu'on avait imaginé comme étant une consommation au forfait, justement, elle était fausse. C'est-à-dire que les gens consommaient beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Donc ça, c'était un premier échec. Donc maintenant qu'il y a des compteurs de partout, ça nous permet effectivement d'affiner les choses. Et l'idée, c'est effectivement de faire ensemble. Donc faire ensemble, ça veut dire que tout le monde s'entend sur un quantitatif disponible, un quantitatif à se partager. Et on s'aperçoit que du côté des ménages, du côté des communes, il y a un grand nombre d'économies à faire. Il y a des réseaux qui fuient, il y a des fontaines qu'il faut peut-être arrêter de temps en temps. Il y a les consommateurs qu'il faut sensibiliser vis-à-vis de cette consommation.
Pour donner quelques chiffres, le bilan qu'on a fait du PGRE, finalement, on s'est donné cet objectif de 15% pour l'acteur eau potable, l'acteur industrie et l'acteur agricole. 15% de réduction de leur consommation en eau. Et donc le bilan qui est fait à l'issue de ce PGRE, c'est une augmentation globale de 20% de tous les prélèvements sur le territoire, avec pour l'eau potable une augmentation de 36%. Entre 2014 et 2019.
C'est lié en partie aussi avec cette montée de chaleur, hein, et donc un surcroît de consommation d'eau. Est-ce que ça, c'est à prendre en compte également?
C'est à prendre en compte quand le SCOT ou quand le PLUI d'Iowa annonce 1% d'augmentation de population. Ça veut dire qu'effectivement, on consomme plus. Le tourisme, on prévoit aussi une augmentation du tourisme, donc ça nécessite effectivement plus d'eau. Qui dit chaleur dit effectivement un besoin supplémentaire, comme on aura un besoin supplémentaire en irrigation du fait du changement de climat. Donc c'est tous ces éléments qu'il faut qu'on arrive à maîtriser. Ce que je trouve très intéressant, moi, c'est que ces 250 personnes qui sont venues, c'est quand même un travail assez remarquable. Les premières réunions, il y a 2 ans, on avait des réunions un petit peu tendues, et qu'aujourd'hui, même s'il y a des points d'accroche, le dialogue s'est complètement transformé. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un faire ensemble qui est assez intéressant. Et chacun apprend à écouter l'autre, chacun arrive à voir la problématique de l'autre. Et on est passé d'une situation où on regardait plutôt l'autre comme étant le coupable à une situation où on partage les choses. Et ça, c'est important de partager pour pouvoir résoudre.
Ces 250 acteurs, est-ce qu'on pourrait avoir une petite précision de leur activité, que ce soit politique ou économique? On peut parler effectivement des agriculteurs, mais quels sont les autres acteurs avec qui vous avez travaillé ou d'essayer d'instaurer ce plan de gestion?
On a eu les acteurs que sont les communes, hein, puisque c'est des distributeurs d'eau, donc savoir un peu quelles étaient leurs façons de faire. Nous, au niveau d'Idiwa, on travaille depuis 2016 avec les communes, hein, pour effectivement la pose de compteurs, raisonner les consommations, la numérisation des plans, trouver les fuites, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont faites avec les communes. D'avoir les données quantitatives chaque année. Donc tout ce travail qui est fait avec les communes, les services d'urbanisme. Où est-ce qu'on va faire du développement? Une commune aujourd'hui qui a une ressource en eau faible, est-ce qu'il est bien d'imaginer son développement, si ce n'est travailler avec l'économie d'eau, justement, dans les maisons? Les acteurs du tourisme, parce que bien souvent, c'est des gens qui arrivent au mois d'août, au mois de juillet, et c'est les périodes où on manque d'eau. Et c'est des gens qui ne sont pas toujours très attentifs à, à leur consommation d'eau. Le monde de l'industrie, ben, même si dans le Diwa, on connaît moins ça, c'est quand même sur le reste de la vallée des gros consommateurs d'eau. Et c'est des gens qui ont su modifier leur prélèvement. Et voilà. Et puis, il faut pas oublier le milieu naturel. Ce besoin qu'a la rivière d'un quantitatif haut pour que le milieu puisse vivre, qu'on évite d'avoir 3-4 km d'assec à l'aval de notre rivière qui dans ces cas-là, remet en question tout le travail qui a été fait les années d'avant. Quoi.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Il y a aussi donc le SMRD qui l'a pour veiller aussi à la rivière elle-même. Il va y avoir 15% de diminution de prélèvement de l'eau. Ça se fait au niveau de la rivière ou alors des cours qui sont confluents de la Drôme
On parlait de l'usage de l'eau. Quand on avait comme objectif d'une réduction de 15% des prélèvements en eau sur tout le territoire et pour tous les acteurs. Et donc ça signifie une réduction des prélèvements sur les ressources en eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines. Et dans les ressources superficielles, on a les sources, les cours d'eau. Et dans les réserves souterraines, on a les différentes masses d'eau sur lesquelles on prélève, notamment sur l'aval de la vallée.
Et pour cela, vous allez procéder à plusieurs actions à l'adresse de diverses structures, ou que ce soit du public également, à commencer par celle des collectivités. Donc vous serez en soutien et en conseil auprès des collectivités pour trouver les solutions ou de pouvoir réduire aussi ces consommations d'eau déjà.
Du coup, si on parle du programme Écodrome, en effet, une des actions... effectivement de se tourner vers les collectivités. Pourquoi ? Parce que les collectivités sont d'une part un acteur central pour pouvoir dialoguer avec le grand public et les acteurs économiques qui sont sur ces collectivités de notre bassin versant. Mais aussi parce qu'il y a des marges de manœuvre pour faire des économies d'eau dans les collectivités. Et donc l'action que l'on met en place sur le territoire, le programme Écodrome auprès des collectivités, c'est de les accompagner à faire des économies d'eau dans les bâtiments publics, dans les pratiques et dans les espaces verts des collectivités. Et donc, la première pierre qu'on a voulu mettre dans cet édifice, c'est d'accompagner trois communes pilotes. Donc, les trois communes pilotes sur notre territoire sont Lucan-Diwa pour le Diwa, Oust-sur-Scie pour la 3CPS et Livron-sur-Drôme pour le Val-de-Drôme. Et donc, auprès de ces communes, pour l'instant, le travail qu'on mène avec un prestataire, c'est depuis le début de l'année 2024, c'était dans un premier temps de réceptionner, on va dire, les relevés de compteurs des différents points d'eau de la commune, des différents prélèvements que peut effectuer la commune. Donc on parle des prélèvements sur les bâtiments publics, les pratiques et les espaces verts. Donc tout ce qui est avant-compteur n'est pas comptabilisé, donc je pense aux fuites sur les réseaux. Disons que ça, c'est un autre travail qui est mené, mais pas dans ce cadre-là. Et tout ce qui va concerner le grand public, ça rentre pas non plus dans ce cadre-là. Et donc, il y a une analyse de ces factures d'eau pour voir quels sont les bâtiments sur lesquels il y a le plus de marge de manœuvre pour faire des économies d'eau. Et donc, une priorisation des bâtiments à visiter. Puis il y a eu une phase de visite de chacun de ces bâtiments pour voir effectivement quelle pouvait être la source de surconsommation de ces bâtiments. Puisque voilà, dans un premier temps, l'étape préalable pour faire des économies d'eau, c'est de savoir ce qu'on consomme et ensuite de voir où est-ce qu'on peut faire, où sont les gisements d'économies d'eau. Pour les collectivités, on compte en général une vingtaine de... on va dire 20% d'économies potentielles sont faisables sur les bâtiments publics, les pratiques et espaces verts. Donc là, on est à une phase où, en avril et en mai, on va avoir la restitution auprès des communes de ce premier diagnostic qui est en train d'être posé par notre prestataire pour, à la suite de ça, créer un petit programme d'action à court, moyen et long terme pour la commune, pour que elle puisse se saisir, disons, de ce constat et puis mettre en place différentes actions qui vont lui permettre de faire des économies d'eau. C'est comme ça qu'il faut faire, finalement, dans une commune, dans une industrie ou même chez soi. Finalement, il faut d'abord constater où est-ce qu'on peut faire des économies d'eau et derrière, prioriser les actions qui vont nous permettre de les mettre en place. Et notre ambition, finalement, c'est de rendre vertueuse et puis même modèle ces trois communes pilotes. Il faut qu'elles puissent elles-mêmes, à la suite de ça, être autonomes et porter son programme d'action d'économie d'eau toute seule. Et donc c'est l'ambition qu'on se donne, c'est de les rendre autonomes et puis aussi de pouvoir diffuser de l'information aux autres communes par la suite. Donc on a prévu un second volet auprès de ces communes qui interviendra après le diagnostic et le plan d'action. Ça va être de mettre en place les actions court terme avec le prestataire. Donc dans les bâtiments publics qui consomment le plus d'eau, ça va être de réparer les fuites, installer des mousseurs, changer les équipements potentiels. Voilà. Puis dans un second temps, à plus moyen terme, ça va être de former les équipes à d'autres pratiques, à planifier des actions, changer le mode de verdissement, puisque par exemple sur la partie espace vert, il y a souvent un triptyque entre un élu, un technicien de la collectivité et le grand public. Finalement, on a le grand public qui veut avoir une forme de verdissement dans son quartier, l'élu qui veut répondre à cet objectif, un technicien qui veut répondre à l'objectif de l'élu. Donc finalement, nous, on veut aussi proposer un temps de faire un pas de recul pour regarder ces pratiques et voir finalement comment répondre finalement aux besoins du riverain, sans pour autant faire comme d'habitude et faire un désherbage automatique ou planter des plantes qui vont nécessiter beaucoup d'eau à un certain moment de l'année où on en a peu. Voilà pour donner des exemples de ce qu'on va mener avec ces trois communes.
Cette remise en conformité, en quelque sorte, nécessite des financements. Est-ce qu'ils existent pour justement opérer cette transition ?
Ah mais effectivement, il nécessite énormément de financement. Le dernier programme qu'on a mis dans le DIWA, c'est 9 millions d'euros de travaux qui ont été faits. Donc c'est un engagement financier important. Donc de l'agence de l'eau, du département, de l'État. On est aujourd'hui en 2024. On est en train d'étudier avec l'agence de l'eau ce qui va être mis en place dès 2026. D'autant plus que l'agence de l'eau attaque son 12e programme. Donc il est nécessaire pour nous de se positionner par rapport à ce futur programme, d'avoir des actions à mettre dans ce programme. Donc l'agence de l'eau est très attentive à ce qu'on fait aujourd'hui dans le DIWA et nous suivra de toute façon en 2026 pour cette prise de compétence, parce que la prise de compétence va nécessiter un fonctionnement différent. On sait qu'on a du rattrapage structurel à faire encore sur certaines communes. Donc c'est tout l'investissement de demain qui va dépendre de toutes ces décisions qui vont être prises dans les mois à venir. Nous, à la fin du mois de mai, on va faire un bilan avec l'agence de l'eau justement et le département sur le contrat de progrès qu'on a en cours. Et on prépare bien évidemment la suite.
Pour cela, il y a aussi un accompagnement public. Ça, c'est un travail opéré par vous, SMRD.
Oui.
Et donc, il y a plusieurs propositions. Il y a ces kits aussi d'économiseurs d'eau. Il y a aussi des micro-événements qui vont avoir lieu sur le territoire. Ouais. On va peut-être détailler un peu toutes ces données. Comment vous touchez le public pour cette transition ?
Donc, le programme Ecodrome, il avait comme ambition de toucher trois publics principaux, les collectivités dont on a parlé tout à l'heure, le grand public et aussi les professionnels. Pourquoi les professionnels ? Parce que pour la plupart, soit ils sont gros consommateurs d'eau, ou soit parce qu'ils peuvent être relais auprès de la population et auprès d'autres cibles consommatrices d'eau. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces trois cibles de travail, avec un gros volet finalement sensibilisation, parce que, comme le disait Pascal, le programme Ecodrom, c'est une pierre, finalement, dans une petite pierre, une petite brique de ce travail SageDrom 2050 qui va devoir être développé à plus grande échelle sur notre territoire. Par exemple, pour la distribution de kits d'économie d'eau, nous, on avait une ambition sur notre territoire, au travers du programme Ecodrom, de distribuer 1200 kits, alors que finalement, il faudrait multiplier ce travail-là par 100 ou 1000. Je n'ai plus l'ordre de grandeur, mais l'idée, ça serait que en fait, tous les foyers de notre bassin versant aient un kit hydroéconome, un kit, disons, qui soit équipé pour qu'on ne surconsomme pas sans penser à... En ouvrant le robinet, disons qu'on peut surconsommer. Et donc, grâce à du matériel assez simple et peu coûteux, on peut rapidement réduire nos consommations d'eau.
Voilà, ce sont des kits disponibles et gratuits hein, pour le moment.
Donc, la distribution, comme nous, on a choisi de la porter, c'était... de distribuer des kits sur mesure et au travers d'acteurs relais sur le territoire qui puissent porter cette action, disons, au plus proche des citoyens. Et donc, pour qu'on ait un kit sur mesure, la première étape, finalement, c'est de récupérer un formulaire où on va renseigner, finalement, les équipements dont on aurait besoin et un sac débimètre qui va nous permettre de mesurer notre débit au robinet et à la douche et au lavabo de la salle de bain pour savoir finalement si on n'est pas déjà équipé de mousseurs qui seraient économes en eau ou si notre pression sur le réseau elle n'est pas trop faible et sur lesquels il serait inutile d'équiper notre robinetterie. Et donc une fois qu'on a noté ces petites informations, on retourne auprès de notre relais qui distribue des kits. On vient récupérer un kit sur mesure, donc avec les conseils d'installation. Et donc dans ces kits, il y a des mousseurs pour les robinets, il y a pour la salle de bain un réducteur de débit pour la douche qui va être à 7 litres minute par exemple. Et on a aussi un sablier de douche qui va être à 5 minutes. Donc ça va être pour sensibiliser les gens à prendre des douches de 5 minutes. Donc certains vont dire, il y a besoin, 5 minutes c'est déjà trop long, je te vois déjà venir Pascal. Mais finalement, c'est très bien qu'on puisse se comparer et se rendre compte que 5 minutes c'est déjà trop long. Ben, c'est super, on peut faire mieux et c'est très bien. Mais pour plein de gens, pour beaucoup de public et notamment les enfants, 5 minutes c'est déjà un bel objectif à atteindre. Ce que je dis souvent c'est que le premier objectif c'est 5 minutes de temps qu'on passe sous l'eau sans se savonner. Deuxième objectif, c'est 5 minutes où on se savonne plus, on se rince. Et dernier objectif, c'est on se lave les cheveux, plus on se savonne, plus on se rince. Donc finalement, il y a des marges de manœuvre à utiliser ce sablier. Pour finir, dans le matériel qu'on distribue, il y a aussi du matériel pour équiper les toilettes, évidemment. Puisque c'est le deuxième poste de consommation d'une habitation, après la douche, c'est les toilettes. Et donc, on peut installer soit
du lest, en quelque sorte.
Oui, voilà. Un poids qui va venir lester la chasse d'eau et venir empêcher que tout le volume d'eau se déverse dans la cuvette. Ou alors, on a aussi un sac qui va venir prendre un volume dans la chasse d'eau et qui va permettre de réduire finalement la quantité d'eau qui va se déverser. Et enfin, pour réduire les fuites d'eau dans les toilettes, on distribue aussi des pastilles de couleur qu'on va mettre dans le réservoir des toilettes et qui vont permettre de s'assurer finalement qu'on n'a pas de fuite, puisque la fuite d'eau dans les toilettes, elle est souvent peu visible et pour autant, elle va générer beaucoup de mètres cubes d'eau dépensés dans l'année. Voilà un peu la diversité des équipements qu'on propose dans ce kit économie d'eau.
Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin des expériences de tous dans ce domaine d'économie d'eau. Donc que ce soit ce que ce qu'a décrit Charlène sur les économies d'eau dans les maisons. Et je crois qu'il y a toujours des gens qui ont des petits trucs. Moi, je me rappelle avoir visité dans la vallée de Quin quelqu'un qui avait mis au point une, ou qui était en train de mettre au point une douche un peu qui fonctionnait sur elle-même. Donc on a toujours besoin d'initiatives comme ça. Et en agriculture, on a besoin de solutions nature, on a besoin de solutions qu'ont trouvé les gens. Donc on est toujours friand d'expériences des uns et des autres, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est vraiment tous ensemble qu'on arrivera à relever ce défi.
Tout à fait, tu as raison Pascal. Effectivement, il y a bien d'autres choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, des petites choses simples, je pense... aussi une personne dans la vallée de la Gervanne qui propose autour de chez lui un petit atelier pour construire des ollas à partir de pots de fleurs qui, voilà, donc il va expliquer comment on va les poncer pour créer finalement une perméabilité du pot de fleurs et pour pouvoir finalement mettre de l'eau qui va venir se diffuser proche de leurs plantes pendant un certain temps. Donc il y a différentes actions qui peuvent permettre de réduire nos consommations d'eau au jardin et aussi dans les habitations. Avant de, ça fait la transition un peu avec les micro-événements, mais avant de passer à cette partie-là, je voulais juste préciser du coup sur le DIWA, sur la distribution de kits, on a deux partenaires relais qui sont l'espace France Service du DIWA, avenue de la Clairette, à côté de la Vie Claire, à Die. Donc, il suffit d'y aller sur les horaires d'ouverture pour pouvoir récupérer son kit d'économie d'eau. Et il y a aussi le 101.7 à Luc en DIWA, donc avec vous, Radio DIWA finalement, espace de vie sociale. Donc à cet endroit-là, on peut aussi récupérer un kit sur le Haut DIWA.
Et puis peut-être un peu des communes qui veulent aussi... du matériel et le mettre à disposition d'habitants.
Alors, les communes sont évidemment les bienvenues à se rapprocher du SMRD s'ils veulent pouvoir distribuer des kits d'économie d'eau auprès de leurs habitants. Nous, c'est vraiment les premiers qu'on souhaiterait qu'ils puissent distribuer des kits d'économie d'eau.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Alors, on arrive à ces micro-événements, hein, ouais. Qui est aussi un moment de pédagogie pour le grand public. Ouais. Il s'agira de parler du circuit de l'eau et pour mieux en prendre soin. Pour cela, divers rendez-vous seront proposés au nombre de 5 avec Stando pour commencer le 24 avril. Et ça sera avec Solia qui accompagnera en quelque sorte les rénovations.
Ouais. Tout à fait. Du coup, les micro-événements, on emmène sur tout le territoire, donc le DIWA, la 3CPS et la CCVD. Et donc, cette année, on a essayé de, on va dire, répartir les événements par territoire, puisque du coup, il y a au total 15 événements qui seront menés pendant la saison printemps-été 2024. Donc, c'est à peu près les mêmes événements qui sont reportés à chaque fois d'une interco à l'autre. Donc, ça commence en effet par un stand eau au marché pour pouvoir rencontrer le grand public, pour pouvoir parler des autres événements qu'on va mener, pour pouvoir aussi expliquer des choses assez simples sur comment on répare une chasse d'eau, ça peut être ce genre de choses, parler de la distribution des kits d'économie d'eau, répondre aux interrogations des gens, diffuser l'information d'événements que des citoyens peuvent porter aussi sur le territoire. Donc c'est un moment de rencontre qui est un peu préalable aux autres événements qui se font après. Et donc on mène cet événement. Donc c'est le 24 avril à Die, au marché. Donc ça, c'est un événement qu'on mène avec le service intercommunal de l'énergie. Et du coup, sur le DIWA, comme il y a un projet de rénovation du centre de la ville de Die, le service public intercommunal de l'énergie nous a proposé de plutôt se tourner vers Solia, accompagnateur rénovation énergétique. Et donc, énergie. Et donc en lien sur l'eau et l'énergie dans l'habitat, sur ce point-là.
Deuxième rendez-vous, le 15 mai, ça sera plus pour les jardiniers, avec des astuces à partager, je pense. Et pour cela, il y aura François Goldin, qui est pépiniériste aux alvéoles, ouais. Qui proposera cette animation derrière le stack de rugby, hein, je crois.
Oui, Adi, tout à fait. Du coup, là, effectivement, l'eau au jardin, c'est aussi un pan de la consommation d'eau des citoyens qui peut être importante pour les jardiniers. Et donc, il y a aussi des gisements d'économie d'eau qui peuvent être importants sur ce point-là. Et du coup, François Goldin, il est pépiniériste aux alvéoles. Et donc, ils cultivent sur un endroit où ils ont peu de ressources en eau au départ. Et donc, ils ont mis en place plein d'astuces pour pouvoir économiser l'eau. Et donc, ils expérimentent dans cet espace-là. Et donc, c'est chouette d'avoir son retour d'expérience pour savoir finalement comment on peut économiser l'eau sur notre bout de jardin. Et du coup, on invite aussi chaque personne qui vient lors de cet événement à partager ses conseils, à partager ce qu'il a pu expérimenter dans son jardin. Tout à l'heure, je parlais des Zoya fait maison, mais on est preneurs. Finalement, l'idée, c'est que ce soit riche de l'expérience de chacun, puisque on sait qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont engagés et qui expérimentent des choses qui permettent de s'adapter à la sécheresse, à l'assèchement climatique et au manque d'eau. Voilà. Et donc, c'est un événement qu'on mènera aussi sur la 3CPS et aussi sur la CCVD. Et d'ailleurs, le prochain astuce des jardiniers qu'on mène, c'est après-demain, mercredi, je ne sais plus quel jour on est aujourd'hui.
Nous sommes le lundi, donc...
On est le 8, donc ça sera mercredi 10 avril à Oust-sur-Scie. Au jardin d'Auguste où il y aura aussi François Goldin qui nous accompagne pour animer cet événement.
Voilà, les jardins qui ont beaucoup souffert l'année dernière, découragé aussi beaucoup de jardiniers amateurs par rapport à cette sécheresse. On peut espérer peut-être de nouveau quelque chose de mieux cette année grâce à ces modules.
Alors, on peut pas. J'entends un peu la question. On peut pas prévoir effectivement les ressources en eau qu'on aura cet été. Pour autant, pour l'instant, on n'a pas d'arrêté sécheresse qui a été posé. L'arrêté sécheresse, c'est une mesure de restriction qui est imposée par le département pour finalement répondre à la crise d'assèchement de notre territoire. Et au vu des dernières pluviométries, des dernières pluies qu'il y a eu sur le territoire, on n'a pas encore eu de restrictions sur le territoire. Donc on ose espérer que ça puisse, disons, ne pas avoir de répercussions sur l'arrosage des jardiniers jusqu'en début d'été.
Une petite parenthèse juste. BMGF, ça vous dit quelque chose? C'est un organisme qui établit des cartes, justement, des nappes d'eau. Et actuellement, là, pour le mois de mars, on est dans une moyenne correcte au niveau de notre taux d'eau.
Alors, le BRGM, pour nous, dans le Haut-Diois, il a moins d'utilité parce que nous, les nappes qu'on peut avoir au niveau du Diois, c'est les nappes d'accompagnement de la Drôme, donc des nappes qui sont proches de la Drôme, alors que les nappes plus profondes, c'est plutôt à l'aval de Saillant, je dirais. Donc, nous, les réserves d'eau qu'on a, c'est des réserves proximité de rivière. Moi, je voulais rajouter que ce qui est sûr, c'est que pour le côté jardin potager, les solutions fondées sur la nature, justement, sont des solutions qui s'appliquent pas comme ça du jour au lendemain. Replanter une haie, l'efficacité de cette haie, on l'aura que dans 3-4 ans, selon le développement de cette haie. Donc, les solutions fondées sur la nature sont toujours plus longues à obtenir. Effectivement, Charlène parlait des alvéoles. On a pu se rendre sur place, un peu regarder un peu ce qu'ils font. Et c'est effectivement, on n'a pas un résultat immédiat dès la première année. C'est des choses qui se mènent à long terme. Alors effectivement, la pluviométrie exceptionnelle de ce printemps, elle nous arrange un petit peu parce que on met un peu moins de pression, on est un peu moins pressé et on laisse effectivement le temps de faire des choses et que ces choses elles soient efficaces dans les années à venir.
Oui. Je voulais préciser aussi que il est possible finalement de suivre chaque mois l'état de, on va dire, l'état quantitatif des cours d'eau et des masses d'eau souterraines sur hydro-réel, où finalement ces données sont disponibles.
J'indiquerai peut-être le lien sur la page de l'émission.
Ouais, ouais, je vous le donnerai.
Ensuite, il y a rando, ça sera à 10 le 29 mai de 9h30 à midi. Et là, c'est en quelque sorte une visite des ouvrages concernant l'eau.
Oui, tout à fait. L'idée, là, dans ce cadre-là, c'est de cheminer. Donc, notre discussion, elle va cheminer sur d'où provient l'eau qu'on consomme au robinet. Et pour cela, on peut observer la géologie qui nous entoure. Et puis, en se dirigeant vers les ouvrages d'eau potable, ça nous permet aussi de faire un lien direct entre cet environnement et l'eau qu'on consomme au robinet chez nous, et au travers de, finalement, ces ouvrages d'eau potable, donc cet endroit où on vient stocker l'eau, pour qu'on puisse répondre aux besoins de la population au moment où, disons, tout le monde va venir consommer de l'eau. On a besoin d'un certain volume de stockage d'eau. Et donc, c'est intéressant de voir ce volume qui nous permet à tous de pouvoir ouvrir notre robinet le matin et avoir de l'eau en même temps au robinet. Pascal, peut-être tu peux témoigner finalement de l'importance de cet ouvrage pour pouvoir avoir de l'eau au robinet tous les matins dans ton village.
Oui, quand on est en tension, moi, j'ai effectivement, à Bellegarde, j'ai toujours des soucis de quantitatif eau sur un mot de la commune. Et effectivement, moi, je passe mon temps en août, septembre, octobre à vérifier le niveau dans ce réservoir, parce que si le niveau, si on consomme plus que ce que m'apporte la source, ben là, c'est le début des problèmes. Et voilà, donc c'est une surveillance journalière à ces réservoirs. Mais je crois que c'est bien que les gens ils se rendent compte effectivement de l'infrastructure qu'entraîne avoir de l'eau au robinet. Parce que on parle de prix, et en fait, c'est pas l'eau qui nous coûte, c'est tous les tuyaux, c'est toute l'infrastructure nécessaire. Dans le Diwa, pour 9600 abonnés, on a 500 km de tuyaux dans tout le Diwa. On a 122 ressources, on doit avoir une centaine de réservoirs. Donc c'est toute cette infrastructure qui coûte. Et quand les politiques nous disent il n'y a qu'à mailler tout ça et puis vous ferez des économies d'échelle, non, on ne peut pas, si Boulk manque d'eau, c'est pas Barnaf qui va lui apporter de l'eau. C'est bien, chaque commune a son réseau et il y a des raisons pour lesquelles il y a ce réseau. Donc ça correspond bien à la réalité de terrain. Mmh. Et souvent, on mélange un peu tout. On a tendance à voir la Drôme comme étant la vallée du Rhône, et puis avec des interconnexions possibles. Nous, les interconnexions dans le Diwa, il y en a quelques-unes. Hein. Di prend sa source, prend son eau à Romeyer. Mais il y a très peu de communes qui sont dans ce cas de figure. Il y a souvent de l'interconnexion impossible à faire.
Il y a aussi un rendez-vous rapide, hein, le 5 juin à Saint-Romand, ça sera au Café des Voyageurs, qui traitera à la source. Donc ça sera à travers deux groupes de considérer les caractéristiques des nappes souterraines de la vallée de la Drôme et les effets aussi sur sa fragilité et dû aussi au changement climatique. Alors ça c'est, qu'est-ce qu'on pourra y découvrir dans ce rendez-vous? Alors, précisément Et à l'adresse de qui précise?
En quelques mots, ce jeu, du coup, on l'a développé en partenariat avec les hydrologues du département, du coup, qui connaissent bien les masses d'eau souterraines qu'on peut avoir sur notre territoire. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre en valeur, on va dire, les différentes caractéristiques, où elles se trouvent, quelle est leur superficie, quelle est leur vulnérabilité face à la sécheresse, leur vulnérabilité face à la pollution, des différentes masses d'eau souterraines. Donc, on parle des nappes souterraines qu'on peut avoir sur notre territoire. Et donc, dans cette animation-là, on invite les gens, donc petits et grands, par groupe, du coup, qu'on constituera, à venir expérimenter au travers de trois phases de jeu. Quels sont comment caractériser nos masses d'eau sur le territoire. Et donc ça permet vraiment de se rendre compte de leur de leur vulnérabilité face à la sécheresse, finalement, on se rend compte qu'elles n'ont pas un volume... soit elles n'ont pas un volume considérable, ou alors soit elles peuvent avoir un volume considérable, mais finalement, le débit dans ces masses d'eau, il va être quand même assez rapide, et ce qui fait que même si elles peuvent bien se remplir, elles vont rapidement se vider aussi. Donc ça, c'est une animation qui permet de finalement plus se connecter à pourquoi faut-il économiser l'eau dans notre vallée.
Et puis, il y a aussi Gaspido. Donc, ça, c'est à l'adresse du jeune public.
Ouais.
Ça part l'école primaire jusqu'aux deux premières années du secondaire. C'est une sensibilisation auprès des enfants et par une malle pédagogique et en même temps ludique, j'imagine.
Oui, tout à fait. C'est comme un grand jeu de loi géant sur les économies d'eau à faire dans l'habitation. Et donc, finalement, on invite... là, pour le coup, ce sera le 12 juin à la médiathèque. On invite du coup des familles à venir jouer à ce jeu. On peut être une maximum de 30 personnes et on vient au travers de défis et de questions mieux appréhender l'usage de l'eau dans l'habitation et aussi comment est-ce qu'on peut réparer des fuites sur notre robinet, installer des mousseurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des questions et des défis qui s'adaptent à chaque niveau. Ça peut être effectivement du primaire et ça peut être jusqu'au niveau adulte. En tout cas, sur les supports de communication, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a créé quelques supports de communication pour le grand public. C'était important pour nous d'avoir des affiches qui puissent bien identifier les événements qu'on va mettre en place. Aussi, on a fait un support spécifique qui invite les gens à venir savoir comment on fait des économies d'eau dans son habitation. Donc, on l'a disposé dans plusieurs endroits sur le territoire et notamment chez les partenaires qui distribuent des kits d'économie d'eau. Donc ça permet de savoir comment on mesure les fuites chez soi, comment est-ce que on peut faire des économies d'eau en plus d'installer des kits. Ça invite les gens à se lancer des petits défis. Et en ce moment, on travaille aussi sur des supports de communication pour les touristes à installer soit dans les hébergements touristiques. Ou soit c'est des supports qui vont être disponibles et qu'on déposera à différents lieux touristiques pour inviter les gens finalement à respecter certaines mesures qui permettent de faire des économies d'eau, mais aussi d'autres mesures qui permettent de préserver les lieux de baignade et les lieux naturels que fréquentent les touristes. Voilà.
À l'adresse du public, il y a aussi ce petit fascicule qui est distribué.
Oui.
On peut le récupérer où, ce document ?
Oui, comme je disais, on peut le récupérer notamment à l'espace France Service ADI et aussi au 101.7 à Lucandivoy. Voilà.
Voilà, ça permet de considérer un peu l'état de son installation d'eau chez soi.
Comment réparer les fuites, également comment on peut contrôler sa consommation d'eau, quels sont les bons gestes qu'on peut mettre en place dans son quotidien. Et donc ça invite à mettre en place des petits défis.
Vous nous parliez d'une étude de terrain, à savoir celui du cheminement des eaux souterraines. Est-ce que ce travail est toujours en cours ou est-ce qu'il y a déjà quelques résultats ?
Il y a eu déjà des résultats qui ont été donnés donc par le BRGM. On a un peu des compléments d'informations à avoir au niveau de la confluence de la rivière Drôme, donc la connexion Rhône-Drôme. Donc c'est toujours des choses un peu en cours, sachant que c'est quand même des études un peu complexes parce qu'on a des nappes vraiment très très profondes. On connaît pas encore trop les interactions entre nappes. C'est des analyses chimiques de l'eau, etc., pour déterminer l'origine de l'eau.
Je vous remercie Charlène Payan et Pascal Baudin de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous parler donc de l'actualité de l'eau dans le Diwa et dans la rivière Drôme également.
Très bien, merci beaucoup en tout cas de votre accueil. Effectivement, on aurait toujours plus de choses à dire.
C'est un sujet très vaste.
Effectivement. Moi, je vous invite du coup à vous rendre sur le site du SMRD, donc qui est rivière-drome.fr/économisons avec un S-L-O, économisons l'eau. Et donc, sur ce site, vous avez tous les micro-événements qu'on mène dans le programme Écodrome et également toutes les autres productions et autres actions qu'on mène dans ce cadre-là.
Pour un travail à faire tous ensemble.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Interview. Okay. Goodbye, everyone.